Bonjour à tous, bienvenue dans une piscine de basse, de beats et de gros sons. Dix ans pile cet été, dix années que la France est dotée d'un arsenal législatif anti-rave. Vous vous souvenez? Ces rassemblements sauvages dans l'Aveyron, ces murs d'enceintes et de sons, ces danseurs torse nus se gondolant non-stop dans les champs, l'effarement des villageois du coin, le sensationnalisme à la une des JT. Depuis, la techno se porte bien, merci. Pas une ville qui n'ait son festival électro. Brest, Caen, Nantes, Lille, Lyon, Strasbourg et Marseille. Le tout avec l'aval de la préfecture et du conseil général. À quelques jours de la techno-parade dans les rues de Paris, le Grand Bain ose la question. La techno est-elle devenue une musique officielle ? Attention, blind test sur France Inter à 9h11. Qui a reconnu ce qu'on vient d'entendre, chers invités ?
Moi non.
Moi non. Et vous ?
Non, ça me dit quelque chose, mais non.
Je dirais non. Alors là, zéro pointé pour mes invités. Pourtant, c'est une date clé dans l'histoire de la techno. 1984, première sortie de Cibotron intitulée Techno City.
Ah, la
bah
honte.
Oui.
Bien
techno
sûr.
City. De quoi fonder l'appellation du mouvement. Par ailleurs, ça a horriblement vieilli. Donc, moi non, cette jolie voix avec cet accent chantant, c'était Fanny Corral. Bonjour Fanny Corral.
Bonjour.
Bienvenue dans le Grand Bain. Vous êtes DJ, on dit. Pas DJ, c'est affreux DJ, non?
Ah oui, non, c'est horrible.
C'est horrible. Alors, DJ, programmatrice, productrice, vos premières soirées, vous les avez organisées du côté de Carcassonne. Ça étonnera pas beaucoup les auditeurs. Puis vous voilà productrice sur Radio Nova, qui décidément aura quand même vraiment beaucoup compté dans toutes les musiques et dans l'émergence de tous les talents. Et puis ensuite, vous êtes passée par le Pulp, dont vous avez été la directrice artistique. Le Pulp, c'est un club qui est resté cardinal dans l'histoire de la techno et aussi dans l'histoire de la culture club. Alors c'est vrai que souvent, quand on pense à la techno, on pense à ces fêtes géantes organisées en plein air, on pense moins au rôle que les clubs ont joué. Vous pouvez nous raconter un petit peu l'histoire du Pulp ?
Bon, l'histoire du Pulp, c'est une longue histoire, mais
c'est 10 ans.
C'est 10 ans, ouais.
Ouais.
Mais c'est avant tout un tout petit club sur les grands boulevards qui est à Paris, qui est avant tout un club de filles,
ouais,
de lesbiennes donc, qui à un moment donné a décidé d'ouvrir ses portes aux garçons, on va dire, et qui a au-delà de la musique, c'est-à-dire qu'il s'est passé des choses musicales à un moment donné assez importantes, hein, et beaucoup de DJ sont passés là-dedans. Mais aussi, c'est un endroit qui...
Lesquels, par exemple ?
Ah ben, je ne sais pas, c'est là où est né Jennifer Cardini, Chloé et Yvan Smug, qui sont aujourd'hui quand même assez... qui tournent bien aujourd'hui, qui se portent bien, on va dire, en tant qu'artistes. Mais des artistes comme Weather Hall, comme DJ L, qui sont Michael Mayer, Super Pitcher, qui sont aujourd'hui des acteurs importants de la scène électronique européenne aujourd'hui, des Hélène Alien, des Magda, enfin tous ces gens-là, quoi. Mais c'est aussi un club qui, à mon sens, est important, parce que c'est un club qui était avant tout un club de lesbiennes et qui a été un espace de liberté et de décloisonnement de beaucoup de normes, en fait. C'est-à-dire de normes sociales, mais aussi de normes de genre et de normes sexuelles, on va dire. Et en ça, moi, j'ai retrouvé au Pulp ce que j'avais au départ, la dimension politique que j'avais et que j'avais trouvée dans la techno. À savoir, justement, un espace de décloisonnement de pas mal de normes. Et donc, une dimension politique à tout ça, quoi. Et... un espace où une certaine contre-culture peut se développer.
on va dire. Contre-culture, décloisonnement et liberté, c'est bien parti. À vos côtés, Guillaume Kosmicki, bonjour.
Bonjour.
700 pages de témoignages d'anciens combattants, c'est ce qu'il a recueilli pour retracer l'histoire des free parties. Vous allez nous expliquer ce que c'est qu'une free party bientôt. Par ailleurs, vous êtes l'auteur d'une somme passionnante que je conseille vraiment aux auditeurs, musique électronique, des avant-gardes au dance floor, paru aux éditions Le Mot et le Reste. Et puis vous êtes aussi, alors j'allais dire un ancien teuffeur. Je vous demandais avant l'émission, est-ce que je peux vous présenter comme ancien teuffeur?
Oui, je vous ai repris.
Ouais, et vous m'avez dit non. Éternel teuffeur, c'est
ça. Oh, un teuffeur tout court.
Teuffeur tout court, c'est ça. Voilà, pour emprunter le vocabulaire consacré. Alors, juste avant que tous les puristes ne me tombent dessus, parce que évidemment je parle de techno et que je fourre tout dans le même sac, et alors qu'on sait très bien qu'il y a des dizaines de courants différents dans la techno, est-ce qu'on peut définir quand même un socle à ce que c'est qu'une musique électronique?
Un socle commun. Disons, par rapport à ce qu'on vient d'entendre, là, Cybotron, c'était un petit peu les prémices, le début. Ça faisait un bout de temps qu'on avait des technologies électroniques qui inséraient la musique en général, le rock, même les musiques plus savantes. Et il se trouve que, au sortir du disco, qui passait un peu de mode, on a électronisé considérablement les genres musicaux de danse. Donc on peut dire, c'est toutes des musiques électroniques de danse. Festive, récréative, voilà, tout simplement. Et comme toute musique festive, récréative, de danse, ça se base sur une boucle répétitive qui permet justement ce genre de pratique. Et puis, sur une basse assez puissante, assez forte, qu'on a pu rendre encore plus puissante par l'utilisation de ces instruments électroniques. Donc, le fameux boum-boum qu'on connaît bien et qui réunit un peu tous ces genres. Après, une myriade de sous-familles, de métissages, etc., ont engendré des tas de styles. Mais la base commune, c'est ce boum-boum général.
Donc on l'a bien compris quand même. C'est-à-dire que cette musique, son évolution, ses chapelles, elles correspondent quand même à l'évolution technologique, d'abord, des sons
de
synthèse.
Absolument. Ça ne s'appelle pas techno pour rien, déjà, bien sûr. Même house music, on dira presque qu'il y a un facteur technologique, parce que c'est la musique aussi qu'on fait, même s'il y a d'autres noms, d'autres origines dans des clubs, des noms de clubs, mais c'est aussi la musique qu'on fait à la maison, avec un home studio, avec un peu de matos comme ça, électronique.
Mais ça, c'est une révolution considérable, l'arrivée du home studio dans les années 80.
Voilà. Précisément, au milieu des années 80, ça a changé complètement la donne, parce que ça a fait que des musiciens totalement amateurs, voire même des musiciens qui connaissaient n'avaient aucune base musicale, pouvaient se passer d'une chaîne professionnelle extrêmement complexe et avec énormément de facteurs, des techniciens de studio, etc., qui étaient très coûteuses. Et bien finalement, de chez soi, partir de rien, fabriquer ses propres sons, sampler, parce que le sampler était aussi une révolution qui faisait partie de l'ensemble, et puis on arrivait à un produit fini, quelque chose qui aboutit, composé sur une cassette à l'époque, et qui pouvait faire danser des centaines, des milliers de personnes.
Donc c'est terminé, c'est-à-dire que le compositeur n'est plus associé à la maîtrise de l'instrument.
Dans ce cas de figure-là, absolument, ça peut être le cas, si ce n'est que, avec ces instruments, on acquiert aussi une grande maîtrise, mais qui est... relié à ces instruments. C'est-à-dire que la maîtrise du violon n'est pas la même que la maîtrise de toutes ces machines, mais il y en a une. Alors là, vraiment, il y a des virtuoses de ces machines.
Alors donc, on a très bien compris, naissance du home studio, naissance de la boîte à rythme.
Tout à fait.
Est-ce qu'il y a une filiation entre, vous avez vaguement évoqué la musique électronique savante, donc en France par exemple, Pierre Boulez, et puis ce qui est devenu ensuite la musique électronique, que j'appelle en gros la techno, ou pas du tout?
Alors, il faudrait une émission entière là-dessus, mais des filiations directes, non, quasiment pas. Les journalistes ont voulu le faire, surtout en France, parce que la techno avait mauvaise presse dans les années 90, milieu 90.
Et Pierre Boulez avait une presse excellente.
Voilà, surtout Pierre-Henri, ils ont appelé Pierre-Henri le grand-père de la techno. Lui-même, ça lui a pas énormément plu, et je veux dire, on a fait des liens très très rapides. Il y a un cousinage, évident. Il y a même des gens qui pratiquent la musique savante qui sont très intéressé, passionné, honnêtement, par la techno. Mais ce n'est qu'un cousinage, voilà. Mais il est clair, par le matériel, déjà, il est clair, quoi.
Nous voici donc bien outillés pour s'attaquer à la naissance de la techno, musique, dance, free party compris. L'occasion m'a alors rêvé d'écouter Arthur Ashe, hein, ça va de soi, et son paradis chinois.
C'est des Chinois, et l'Ouganda, aussi chinois. Et c'est là-bas que ma China lady is waiting for me. Jésus, il est chinois, chinois comme toi, chinois comme moi. Ta mère, elle est chinois. Ta sœur aussi, elle est chinois. Nous aussi, nous sommes nous. Nous chinois, nous. Le paradis, il est chinois. Et c'est là-bas que ma China lady is waiting for me. Le paradis, il est chinois. Et c'est là-bas que j'irai mourir, ma China lady. Que j'irai mourir, ma China lady.
Sur le site où devrait se dérouler cette rêve sauvage. Monsieur, s'il vous plaît, oui, bonjour, excusez-moi. À votre avis, faut-il interdire ce rassemblement musical de jeunes en milieu rural?
Il faut savoir être tolérant, mais là, faut être lucide. La house music est une musique de traite savate communiste. Moi, de mon temps, en écouter du rock and roll, c'était autrement plus couillu. Mais dis donc, toi, mais tu m'as l'air d'être un jeune, toi, espèce de petit salopard.
Oui, mais je suis un jeune giscardien.
Bon, oui, bon, d'accord.
De toute façon, Monsieur Sarkozy a été clair. À minuit, c'est le couvre-feu et les jeunes n'ont rien à faire dehors, enfin.
Heureusement qu'il y en a des jeunes giscardiens et qu'il en reste. Vive les détournements parodiques signés Mosinor que nous saluons. Alors nous, dans le Grand Bain, on se demande donc si la techno est devenue une musique officielle aujourd'hui. Alors on va se replonger à l'époque où elle sentait vraiment le soufre pour les médias. À l'époque, évidemment, qui est qualifiée d'âge d'or pour les puristes. Vous l'avez dit tout de suite, Guillaume Kosmiki, quand vous nous avez défini ce que c'est que la famille des musiques électroniques, vous avez tout de suite parler d'une musique faite pour la danse. Alors je me retourne vers Fanny Corral, qui est donc DJ et qui est également productrice, parce que vous avez votre label qui est sobrement baptisé Kill the DJ, hein, ouais, tout ouais, un programme. Ouais. Qu'est-ce qui fait danser dans la musique techno?
Déjà, c'est la pulsation, quoi. Ouais. C'est quand même basé là-dessus, quoi. Donc... Je sais pas. Non, c'est un truc, c'est effectivement, c'est un truc de pulsation et de rythme. C'est basé sur un truc.
Il n'y a pas que des pulsations et des rythmes. Il y a aussi tout un tas de cassures qui font que on est emporté par un mouvement. Il y a des moments où ça s'arrête, il y a des moments où ça reprend.
Ouais. Moi, je trouve que c'est une musique qui s'adresse autant aux jambes qu'à la tête. Hein. C'est-à-dire qu'il y a la pulsation, puis après, il y a tout le reste, tout ce qui est les nappes de synthé, les mélodies, ou pas d'ailleurs. Tous les sons qui s'adressent, qui sont plutôt de l'ordre du mental et de ce qui se passe dans la tête quand on danse aussi. Parce que c'est pas juste des pieds qui bougent hein, avec un boum-boum.
Guillaume Kosmiki.
Moi, j'ai commencé à travailler dessus en tant que musicologue. En tant que musique de trance, Pour moi, tout simplement, la question, c'est que c'est construit comme une musique qui doit faire voyager, de toute façon. Donc, effectivement, il y a ce rythme qui fait danser, il y a toutes ces choses-là, mais c'est une musique qui n'a pas de début, pas de fin. Ça, c'est
elle est en droit important. Interminable. Elle est indiffusable en radio.
Voilà, c'est ça. Déjà, les morceaux eux-mêmes n'ont pas de début, pas de fin.
Pas de début, pas de milieu, pas de fin.
et les DJ vont tout faire pour fondre les morceaux de manière subtile ou même un petit peu accidentée, s'il faut, parce qu'il faut un peu secouer les danseurs, parce que les secouer, ça peut aussi déclencher la transe. Hein. De temps en temps, il faut faire des continuités. De temps en temps, il faut les assommer sous une des décibels ou sous un emportement énergique. Mais ils vont lisser les choses pour que ça se dure d'un bout à l'autre de la nuit. Voire, moi, j'ai assisté à des technivals où la techno ne s'arrêtait pas pendant 5, 6 jours, 7 jours. On peut arriver quand on arrive sur la fête. Je veux dire, elle peut avoir commencé il y a des siècles ou terminer même bien après qu'on s'en aille.
Imaginez, une fête qui aurait commencé il y a des siècles.
Mais quelque part, c'est peut-être vrai.
Je vous laisse fantasmer. Alors, la techno, elle est née aux États-Unis.
Alors je peux mettre un petit bémol. Il y a un petit bémol. C'est vrai qu'il y avait une musique électronique très très forte en Europe aussi, en Allemagne notamment,
et en Angleterre
aussi.
Vous allez nous parler de Kraftwerk.
Ça peut être Kraftwerk, ça peut être aussi la synth pop, ça peut être enfin plein de mouvements comme ça. Et même celle qui est née aux États-Unis, qui s'appelle effectivement techno peut-être pour la première fois.
C'est pas Détroit. Même celle-là
à Détroit, elle est un mélange de Depeche Mode, de Kraftwerk, de George Clinton. Donc de plein de cultures, donc forcément, évidemment, ça met un lieu, ça met une date, allez, Détroit, 86, 87,
mais
c'est pas si simple que ça. Et puis en fait,
j'ignorais que j'allais déclencher une controverse.
En vérité, c'est peut-être pas si important. L'essentiel, c'est que ça a déclenché en tout cas un mouvement culturel, et que ce mouvement culturel, il a été fort. Au niveau du côté rave, etc.
Ce que j'aimerais justement, c'est que vous nous racontiez tous les deux comment on a commencé à danser sur ces musiques, comment les raves sont nés. Ensuite, si vous voulez faire des compartiments entre ce qui est rêve, ce qui n'est pas rêve, etc. et dans les différents courants, mais comment on a commencé à danser, comment on a commencé à se rassembler pour danser sur ces musiques.
Moi, je peux faire un petit historique de ce qui s'est passé en Angleterre, parce que c'est vrai que la rave est née en Angleterre. Il se trouve que même là-dessus, il existait, on était dans les années Thatcher, qui étaient des années extrêmement tendres, comme chacun sait, vraiment pas facile à vivre, hein, très 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 difficile, pour la jeunesse notamment, et il se trouve qu'avant même que la techno arrive, il y avait déjà des fêtes, donc on appelait des warehouse parties, des fêtes dans des hangars, dans tous ces hangars qui étaient laissés en friche autour des grandes villes, qui avaient des industries qui fermaient, etc. C'était une période assez difficile au niveau du travail, et il y avait des fêtes qui écoutaient du ragamuffin,
juste une minute, parce que là vous parlez donc de l'ère post-industrielle, de ces villes avec ces hangars en friche. On vient juste de parler de Détroit, donc c'est vraiment quand même une musique de ces paysages-là, de ces ambiances-là.
Oui, c'est vrai que Détroit, c'est emblématique.
Ça, c'est sûr.
C'est très très emblématique.
Ouais.
Alors, qu'est-ce qu'on écoutait dans ces fêtes, donc Guillaume Cosmiki?
Avant la techno, avant la house d'abord, qui est arrivée, on écoutait du ragamuffin, du rap, enfin toutes ces musiques étaient déjà électroniques d'ailleurs au début des années 80. Et il se trouve qu'effectivement, des disques de Chicago, et non de Détroit, sont arrivés, de house music.
Alors, re-sous-titre, donc Chicago, deuxième berceau de la techno, donc berceau de la house, c'est ça, Fanny Corral?
Ouais, d'une house assez musclée, on va dire.
D'une house musclée, mais qui se nourrit donc à quelle mamelle, là, donc, comme influence? Clairement, plus le disco, la Motown.
C'est vraiment la house de Chicago, c'est vraiment à cheval entre quelque chose de très mécanique et très froid, la techno de Détroit, et des influences disco avec un peu de voix et tout ça, mais c'est quand même...
Plus colorée,
mais c'est quand même assez agressif, la techno de... la house de Chicago, quoi. C'est beaucoup plus dur, quoi. Parce que c'est une ville dure aussi, quoi. C'est quand même... C'est des musiques qui sont calquées aussi pas mal au paysage social et industriel, ce qui se passe dans les villes, quoi. Et effectivement, la techno de Détroit, quand on écoute la techno de Détroit, on voit de suite Détroit, c'est-à-dire...
Et puis, on peut se resituer dans l'époque, hein, de cette ère post-industrielle
industriel, le chômage qui monte, une crise pas possible.
Une jeunesse qui se fait happer petit à petit par l'informatique, une sorte de nos futurs, d'angoisse de l'avenir.
D'ailleurs, si on parle des structures musicales, on peut même y revenir à ce niveau-là. Dans la techno, il n'y a pas une mélodie supérieure qui domine tout et des instruments qui accompagnent la mélodie, donc une sorte de construction pyramidale. Dans la techno, dans la house, on a toutes les bandes qui sont à égalité. Quand on voit un danseur ou une danseuse, on peut se fixer sur la partie qu'on veut, des petites percussions, des petites mélodies, en fait tout ce qu'on veut peut être dansé librement. En fait, cette construction égalitaire en fait, hein, des bandes musicales, elle correspond totalement avec l'esprit qui est toujours d'ailleurs celui de la techno, de la house, c'est-à-dire une construction égalitaire où chacun est accepté, chacun, il y a pas de frontières, il y a pas de limites.
Sauf qu'à l'époque, on parle pas encore de ce que vous avez appelé un technival.
On parle pas de ça, ça c'est un terme qui arrivait bien plus tard, mais on fait ces fêtes qu'on appelle des warehouse parties ou des acid parties. On parle aussi de ce terme-là. Et alors, ce qui se dit fréquemment, et ça, on ne peut pas non plus faire l'impasse là-dessus, c'est qu'à ce moment-là, mais ce n'est pas du tout une apparition, ce n'est pas du tout une découverte, mais à ce moment-là, il y a une substance psychoactive qui est devant en poupe, qui est l'ecstasy. Et il se trouve qu'effectivement, c'est un moment où il y a une découverte par beaucoup de public de cette substance qui fonctionne très bien avec l'être ensemble, qui est la communion et les effets musicaux. Et évidemment, ça a pu aussi favoriser l'importance que prend cette musique. Juste une petite parenthèse, c'est une substance qui existe depuis le début du XXe siècle et qui a été consommée dans les années 60-70. C'est pas du tout la techno qui a inventé ça. C'est juste qu'à ce moment-là, elle est interdite dans plusieurs pays parce qu'elle connaît le succès même avant l'arrivée des raves. Bon, c'est arrivé comme ça.
Fanny Corral, vous vous souvenez de votre première rave ? L'expérience que ça a été ? C'était où ? C'était quand ?
C'était dans le sud et c'était ce que c'était des raves à l'époque, c'est-à-dire des petits groupes de personnes, 200, 300 personnes réunies. Alors nous, à l'époque, c'était pas des hangars industriels parce qu'à Carcassonne, il n'y en a pas trop, mais c'était plutôt en pleine campagne, avec en pleine garrigue, avec un groupe électrogène et c'est parti, quoi. Et c'était, ça a été quand même assez... Enfin, comme toi, tu dis, j'ai lu des trucs, et c'est une claque, quoi, parce que d'un seul coup, y a pas de videur, il y a cette musique qui est là, où à un moment donné, on danse en toute liberté, on n'est pas collé devant un truc à regarder le chanteur chanter, mais on est tous ensemble, on vit les uns les autres.
C'est ça, parce qu'on a bien compris que la musique elle-même casse tous les codes de la chanson traditionnelle, refrain, couplet, etc. Mais tous les codes du concert...
Bien sûr, ça casse tout aussi, c'est-à-dire que le DJ, on s'en fout, il est dans un coin, il passe de la musique, hein, on s'en fout complètement. Quoi. On est là, les uns avec les autres,
on danse.
Vous voulez
dire que le DJ superstar, ça viendra beaucoup, beaucoup plus tard.
Oui, c'est beaucoup plus tard, au contraire. Dès le départ, il y a quand même cette volonté de casser ce truc de star où à un moment donné, on s'en fout du DJ, il est planqué dans un coin, il joue de la musique et on est là pour la musique. Et d'un seul coup, il n'y a pas de videur, il n'y a pas un mec au bar qui te regarde de travers.
Fanny Corral, c'est qu'on était en pleine expansion du marché du CD, souvenez-vous. Et bien ces DJ, ils passaient des vinyles à ce moment-là, ou pas ?
Ouais, c'est vrai, mais parce que Enfin, passer du vinyle, parce que pour mixer, à un moment donné, pour pouvoir mixer, il faut à un moment donné mettre les disques à la même vitesse. Et on ne pouvait pas faire ça techniquement avec le vinyle. On faisait ça avec le CD. On faisait ça avec le vinyle. Et je pense qu'en plus, le vinyle permettait aussi une production en petite quantité que ne permettait pas le CD à l'époque.
Guillaume Kosmicki, je l'ai dit, vous avez théorisé, travaillé sur toute l'histoire des raves et des free parties. C'est quoi la différence entre une rave et une free party ? À partir de quand le mouvement s'est réellement structuré ?
La différence, elle s'est faite plus tard. En vérité, toutes les raves étaient des free parties. À la base, c'était des fêtes libres. Hein. Ça ne veut pas forcément dire gratuit, mais à la base, c'était des fêtes improvisées, un peu dans des lieux pas forcément faits pour ça. Et puis, ce n'était pas avec des autorisations. Dès le début, en Angleterre, c'était ça. Et donc, c'était des free parties. Si ce n'est qu'avec l'apparition de la répression, déjà en Angleterre, puis ça s'est passé de la même manière dans d'autres pays comme la France, avec l'apparition de la répression...
À partir
pas mal
de quand ?
En France, la grosse répression, vraiment le pic de la répression, c'est 94-95. Mais ça a commencé un petit peu avant.
Et puis l'arsenal législatif définitivement voté, je l'ai dit, c'est il y a pile 10 ans. Donc pendant 5 ans, voilà. On a tourné autour du pot et puis on a voté la loi en 2002.
Voilà, et en Angleterre, la répression c'était 90 et la loi c'était 94. Mm-hmm. Donc voilà, c'est à peu près ça. Hein. Ça
même, fait schéma.
Même schéma. Et bien à partir de ce moment-là, il se trouve qu'il y a certains organisateurs qui ont choisi la clandestinité et qui l'ont fait, je dirais, même s'ils ne l'affirmaient pas, même si c'est parfois un gros mot pour eux, mais disons-le franchement, ils l'ont fait avec des raisons politiques. Quasiment, là, ça prenait quand même une tournure libertaire. C'est-à-dire que...
Donc c'était devenu des activistes, quasiment.
Complètement, oui. C'est-à-dire que le mode de vie devenait techno. Ils vivaient techno du matin au soir et puis s'engageaient en gros dans un combat. Je dis s'engager, mais je parle au passé. En vérité, il y en a toujours. Ça a été la grosse surprise de mon...
Fanny Corral.
Peut-être préciser absolument. Qu'est-ce que c'est vivre techno. C'est-à-dire qu'à l'époque, c'est comme ça, peut-être que ça arrivait aussi en France, c'est qu'il y avait une grosse répression en Angleterre. Et des collectifs comme les Spiral Tribe et tout ça, qui étaient des gens qui vivaient de manière très alternative, dans des camions, de manière assez nomade, ont dû quitter l'Angleterre. Ils sont venus en France à cause de la répression. Et moi, je sais que dans le sud de la France, les premières raves, c'était ces gens-là qui les avaient organisées. C'est-à-dire que c'est des Anglais qui ont débarqué avec des camions. Ils vivaient dans ces camions, ils se promenaient de ville en ville. Dedans, 2 ans, ils avaient un sound system. Ils arrivaient, ils ouvraient le camion, ils sortaient le sound system, ils commençaient à mixer et c'était parti. Et ils se baladaient à droite à gauche, ils distribuaient des flyers photocopiés en disant « Ouais, on fait une fête dans la garrigue, venez ». Et tout le monde débarquait là.
Mais qu'est-ce qui s'est passé à partir du moment où il y a eu répression et où il y a eu chasse préfectorale et policière? Il y a eu en gros 2 mouvements. D'un côté, les fêtes qui ont résolument demandé la permission et l'autorisation de faire des fêtes, donc encadrées par les autorités. Et puis les fêtes qui sont restées sauvages et clandestines.
Il se trouve que le public à la base était quand même très très proche. C'était les mêmes qui allaient dans les deux, y compris même dans les clubs. Hein. Ça, je peux le dire, c'était les mêmes. On se reconnaissait. C'était d'ailleurs assez remarquable, c'est-à-dire qu'on se baladait dans une ville, quelle que soit la ville. Moi, j'étais à Aix-en-Provence et on entendait boum boum dans un coin où on reconnaissait un look de quelqu'un et on n'était pas beaucoup à écouter de la techno. C'est vrai qu'il y avait tout de suite une reconnaissance, mais alors c'était quelque chose de... Aujourd'hui, du boum boum, on entend beaucoup plus. Ça, c'est passé un peu dans
Fanny
les mœurs.
Fanny Corral, la house dont vous parliez, ça a été aussi toute la musique emblématique du mouvement gay.
Ouais.
Et c'est aujourd'hui la musique, par exemple, de toutes les gay pride un peu partout autour du monde.
C'est, on va dire que c'est une autre branche. C'est-à-dire, pendant qu'il y avait la techno qui se développait aux États-Unis, aux États-Unis, tout ça, il y a quand même eu... mais ça vient de la disco. C'est-à-dire que au moment de l'émancipation homosexuelle aux États-Unis, c'était la grande époque de la disco. Et la disco a été quand même... la techno est biberonnée à la disco. C'était déjà, il y avait déjà un gros pied, il y avait déjà des voix et tout ça. Et ça a été les gays aux États-Unis se sont émancipés sur la disco et après sur la house, quoi. C'est une évolution naturelle, quoi.
Donc effectivement. Alors, comment la techno est rentrée dans le rang, c'est le sujet du grand bain ce matin. Je vous fais écouter un DJ français. Donc c'est devenu un monument, c'est devenu une institution à lui tout seul, musique officielle ou pas, ce sera à vous de juger. C'est Laurent Garnier.
Le grand bain, Sonia De Villers. We'll be right back.
pas de panique, vous êtes toujours sur le service public. Mais là, on a pitié de vous et on arrête parce que ça dure 9 minutes comme ça. Donc, c'était juste l'intro. C'était l'intro de Crispy Bacon qui est le tube des tubes. C'est vraiment devenu un grand, grand classique. C'est Laurent Garnier qui est aux manettes, comme on dit. Et Laurent Garnier, c'est vraiment le pilier français de la musique électronique. Alors, donc, je suis toujours en compagnie du musicologue Guillaume Kosmiki et de la DJ. Oh non. DJ. Fanny Corral. Est-ce que la carrière de Laurent Garnier vous paraît emblématique de l'évolution de la techno en France, Guillaume Kosmiki?
Est-ce qu'on peut parler de quelque chose d'emblématique à propos d'une carrière de DJ? Je suis pas certain. Il y a quelque chose que je veux dire sur Laurent Garnier, c'est que j'ai un énorme respect. Je suis pas le seul. On est beaucoup à avoir un énorme respect pour lui parce que c'est justement quelqu'un qui accédait à la célébrité. Ça, il y a aucun problème.
Qui s'exporte dans le monde entier.
Absolument. Mais qui a fait il a fait les débuts de la techno en Angleterre, la house de la techno, et qui est resté d'une simplicité extrême, qui est resté quand même assez anti-star dans son optique, qui n'a jamais cédé aux invitations dans des festivals, bon, qui l'intéressaient pas.
Mais quand je vous dis que Laurent Garnier aujourd'hui, il a une émission sur une antenne de Radio France qui s'appelle Le Move, donc il est devenu une mission de service public. Ça vous fait sourire par rapport à ce que vous nous racontez qui s'est passé il y a 15 ans ?
Non, parce que c'est plutôt normal. Toute musique commence dans l'underground et heureusement qu'on a accès qu'elle a accès à quelque chose d'un peu plus populaire, sinon ça s'étouffe et ça ne bouge plus, quoi. Après, Laurent, il n'est pas populaire. Enfin, quand je dis populaire, c'est grande audience, quoi. Et Laurent, il a quand même eu toujours cette volonté, et c'est là où il est fort, c'est de... non pas de vulgariser la techno, mais d'essayer de la faire comprendre au plus grand nombre, d'en assurer une vraie promotion, de la défendre. Il a ça vraiment dans le sang. Il a toujours défendu cette musique-là comme étant une vraie musique, quelque chose de artistiquement valable, parce que c'était pas évident. Et il y a encore des gens qui remettent ça en cause. Laurent...
Pas à Radio France, manifestement.
Ouais, et Laurent, il a ce rôle, il a un vrai rôle de passeur, en fait. Et c'est ça un DJ aussi.
Alors, Guillaume Kosmiki, dans vos ouvrages, on comprend que certes, il y a eu répression, mais qu'à la limite, la répression policière a été presque salvatrice pour le mouvement, parce qu'il y a un moment où le mouvement dérivait totalement par rapport aux idéaux dont vous venez de nous parler. Qu'il s'est massifié de manière spectaculaire.
Absolument. Dans les idéaux dont je n'ai pas parlé non plus, mais il y en avait un qui était très fort. Et puisqu'on a parlé de Spiral Tribe, c'était parmi les idéaux qui véhiculaient. Il y avait aussi le respect de la nature. C'était l'alliance technologie-nature. Effectivement, quand ça devient massif, un mouvement, eh ben, forcément, c'est beaucoup plus difficile à gérer pour un petit groupe de gens qu'on appelle un sound system, de gérer en fait un afflux de 5000, de 8000, de 10 000 personnes.
De 100 000 personnes, il y a eu des techniques.
Jusqu'à 100 000, mais là, il n'y avait pas qu'un seul sound system. Mais effectivement, il y a eu des... Enfin, 100 000, c'est un petit... 90 000, 100 000, c'est pareil. Et là, effectivement, les problèmes de respect de la nature, même les problèmes de même cette utopie de la communion, de l'acceptation de tout le monde, etc., ça pouvait plus fonctionner parce que forcément, des gens...
L'autogestion en masse, ça marche pas.
Voilà, c'est ça. Absolument, l'autogestion en masse, ça marche pas.
Et puis la contre-culture, quand elle devient une culture de masse, c'est quand même une vraie question.
Et pour pas mal de gens, sur le coup, c'était pas facile à dire, mais pour pas mal de gens, effectivement, cette loi très répressive, liberticide, cette loi, malgré tout, a permis une sorte de on s'est recentré finalement sur les vraies valeurs, et il y a
donc
pas mal
sur
de
rêves aussi officiels d'un côté, pour tous ceux qui aimaient ça, et tant mieux pour eux, et puis sur ceux qui voulaient faire perdurer.
Continuer le côté un petit peu clandestin, le côté très libre, très spontané, en fait, de ces fêtes,
Alors,
et qui continue.
Tous les jeudis, on part en reportage dans le Grand Bain, on part en reportage avec Rémi Douat. Bonjour Rémi.
Bonjour.
Qui rejoint notre plateau. Alors, on est à quelques jours de la Technoparade, qui se déroulera comme chaque année dans les rues de Paris. Donc, c'est l'occasion de faire le point avec vous sur les conditions dans lesquelles elle se déroule, cette Technoparade.
Oui, alors je me suis rendu à des années-lumière de la garrigue de Fanny Corral, ou des clairières. Donc, je me suis rendu dans le 6e arrondissement, très chic, pour rencontrer Christophe Vigra, de l'association Technopole. Leur boulot, c'est d'organiser la Technoparade, énorme défilé électro qui rassemble dans les rues jusqu'à 300 000 personnes. Alors la prochaine édition, c'est le 15 septembre et en attendant, on avait envie de savoir comment ça s'organise. Comment est née la Technoparade ?
La Technoparade est née de la volonté d'avoir une reconnaissance légale, d'organiser des événements techno et house. La première Technoparade s'est faite dans ce mouvement d'institutionnalisation. Moi, je fais partie des gens qui travaillent pour que les autres fassent la fête. Donc, faire la fête, c'est beaucoup de travail.
Avant la Technoparade, on pouvait aussi aller dans un champ de patates, faire la fête avec un centre système. Vous l'avez fait, ça ?
Oui, et se prendre des CRS. Moi, j'ai plutôt collé à la démarche de Technopole, qui est la voie légale. Ce qui n'empêche pas l'impertinence et l'audace. Mais à quoi bon faire la fête dans un champ de patates si c'est pour se faire saisir le matériel, avoir les flics et passer un mauvais moment ? La ville de Paris soutient Technopole et la Technoparade et nous accorde l'autorisation du parcours. On n'a jamais eu de vrais problèmes avec la ville de Paris. Il y a plutôt un bon soutien au niveau technique, on va dire. On a un site de montage pour pouvoir préparer les chars. La ville de Paris nous met à disposition gracieusement un espace, Porte d'Oreilly. La propreté de Paris s'occupe de nettoyer après le passage. Je peux vous dire que ce n'est pas une sinécure. Hein. Ils font un énorme boulot parce que je crois qu'il y a 15 tonnes de déchets, quoi.
Et la préfecture ?
Et la préfecture, pareil, on a une bonne collaboration technique.
Donc vous travaillez en bonne intelligence avec la police, finalement ?
Bah, on travaille en bonne intelligence, oui, absolument, avec la préfecture de police, avec tous les services.
Combien pèse le sponsor, en fait, les sponsors, dans la totalité de l'organisation de la Technoparade ?
La plupart des années, c'est 100%. Notre travail, c'est de lier une marque avec des artistes. Voilà, histoire que ça soit crédible. Donc les marques, elles sont intégrées dans les chars et on fait en sorte que ce ne soit pas visible. Voilà, disons que nous, on ne fait pas la parade pour avoir des marques, on fait la parade pour faire la fête.
D'accord, donc c'est de la publicité détournée plutôt ?
Pas du tout, c'est simplement que la marque doit être visible sans déranger et on n'est pas là pour se prostituer.
Mais alors quand on est en quelque sorte adoubé par la ville de Paris, quand des marques sont derrière vous pour vous soutenir, est-ce qu'on n'est pas ultra consensuel justement et...
Bah, les purs et durs, ils sont évidemment... intraitable sur les concessions qu'on peut faire, mais que nous n'avons pas l'impression de faire. On est simplement on a entre les mains une pépite qui est la Technoparade, qui est à cheval entre une manifestation revendicative de base et le festival. Mais à Technopole, on pense différemment et on a des parcours différents, comme Raphaël qui s'occupe des actions de fonds à Technopole et qui lui kiffe vraiment la free party.
C'est vrai, Raphaël ?
Oui, bah moi je pense de toute façon, ce qui m'a intéressé dans les musiques électroniques, c'est la terre de liberté en termes de création. Et je pense que ça se retrouve autant en free party qu'au niveau de la Technoparade ou d'un Astropolis. Donc ces guerres de chapelle se tarissent et n'existent quasiment plus. Là, l'idée avec Technopole, c'est de créer un réseau, le réseau des acteurs des musiques électroniques. Et la Technoparade, c'est la même chose, c'est la vitrine de ces acteurs.
Qu'est-ce qu'on vient d'entendre, Rémi Douat, ce petit boum-boum ?
Alors, ce petit boum-boum sympathique, c'était Agoria et ça s'appelle Speechless, sans voix.
Et alors, c'est un peu alors, la Agoria, vedette, vous la allez, star.
Si vous vous rendez donc dans les rues de Paris le 15 septembre, c'est Agoria, le parrain de la Technoparade. Voilà, okay. Vous allez l'entendre.
Merci Rémi Douat, un journaliste à suivre assurément dans les pages de Libération très bientôt ou sur France Culture et autres bonnes maisons. Merci pour cet été passé en votre compagnie. Chers invités, Guillaume Kosmiki, Fanny Corral, elle s'en remet pas. Notre boulot, c'est de lier
la musique aux marques. C'est intéressant.
Pour vous, c'est le paradigme de la techno devenue musique officielle ?
Non, c'est pas un paradigme, mais à un moment donné, comment rester indépendant et continuer l'expérimentation quand on est lié à une marque qui, elle, est là pour vendre du Nesquik, quoi. Enfin, je sais pas trop comment ça marche.
Guillaume Kosmiki.
Moi, je peux dire, dès le début, la première parade, je l'ai faite en 98. C'était un grand espoir pour beaucoup d'entre nous.
Non, parce qu'au départ, c'était quand même un
c'était mettre la techno au grand jour. Voilà. Moi, j'ai vu des choses dès la première parade qui m'avaient profondément déçu. Il y avait aussi beaucoup de marques, c'était déjà présent dès le début. Il y avait beaucoup de politiques qui se promenaient dans les rangs, qui se faisaient voir, etc. Bon, bah, il y avait quelque chose qui ne correspondait pas du tout à mon idéal de la techno, même si j'y ai participé. Il y avait Laurent Garnier qui était présent. Il se trouve que Laurent Garnier a démissionné après la deuxième. Hein. Il a lui aussi claqué la porte, il faut le préciser. Et le soir de la première parade, j'ai fait un Technival qui était tout proche de bord de la Villette, vers la Villette, là, dans Paris. Et ça s'appelait, c'était un petit peu la mode de ces Technival qui allait un peu à l'encontre de ces mouvements officiels, mais ça s'appelait le Fuck Techno Parade, tout simplement. et j'ai pris aussi beaucoup de plaisir à participer à ce Technival.
On a bien un DJ qui a appelé son label Kill de DJ, c'est un peu votre spécialité. Il nous reste vraiment quelques secondes. Est-ce que vous diriez que l'utopie dont vous nous avez parlé, là, pendant presque une heure, cette utopie, elle est encore vivante ? Elle est cet esprit ? Guillaume,
je peux signaler deux petites choses. Quand j'ai écrit ce livre sur les free parties, que j'ai recueilli des témoignages, j'ai été très surpris déjà de voir que beaucoup de centres systèmes continuent à vivre, des gens très très jeunes, dans des hangars, en communauté, partaient voyager, amenaient de la musique comme ça en Bulgarie ou ailleurs. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je vois aussi beaucoup d'anciens acteurs, c'est-à-dire des acteurs du mouvement free party, centres systèmes, etc., européens, qui s'en vont de plus en plus loin dans des voyages très 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 lointains en Amérique du Sud, en Mongolie ou ailleurs, et qui partagent leur musique avec des musiciens locaux. C'est toujours une musique de métissage qui mélange ça avec des chants diphoniques mongols, etc. Par exemple, il y a le label IoT Records qui fait plusieurs choses dans ce type-là, mais beaucoup d'autres encore. Et donc, de ce point de vue-là, moi je pense que l'utopie continue et elle est toujours présente. Évidemment, la musique est devenue officielle mais, par bien des aspects, mais une utopie continue. Pour moi, c'est évident.
Moi, je sais pas si je suis plus dans ce milieu du tout, donc je sais pas si l'utopie continue. Mais si tu le dis, tu vois, je pense que c'est tout à fait vrai. Moi, je pense quand même que la contre-culture a toujours existé. On l'a trouvé dans le rock'n'roll, à la fin des années 50, dans les années 70. Ça s'est déplacé sur les musiques électroniques. On la retrouve ailleurs aujourd'hui. Je pense que c'est pour moi, la techno, c'était une contre-culture. Et c'est quelque chose de mouvant et qui se déplace dans plein de formes différentes.
Il y aura toujours de la contre-culture,
donc toujours
de l'underground.
Donc ça sera toujours là, voilà, ça existera toujours.
Je vous remercie vraiment tous les deux pour ce sacré voyage que vous nous avez fait faire depuis ce matin. Vous allez voir, on va changer radicalement d'univers, mais c'est pas mal non plus.
Argentina, Chile, Mexico, Taiwan, Great Britain.
On dirait bien le prochain album d'une américaine qui se fait appeler Cat Power sur France Inter. Et au début, il y avait bien quelques secondes, vous n'avez pas rêvé, de techno hardcore. C'est la blague du jour, elle est signée notre réalisatrice Maïté Vasseur. Allez, une avant-dernière rencontre avec le psychanalyste JB Pontalis. Il est temps de rentrer à la maison.
Pas de visage. Rien qu'une voix. Et une écoute.
JB Pontalis, après les rencontres avec les villes, les paysages, les maisons.
Oui, parce qu'il peut arriver que la rencontre se fasse avec une maison. Et c'est comme une rencontre amoureuse, même s'il ne s'agit pas toujours d'un coup de foudre. Tout de suite, au premier regard, on pressent que cette maison, ou cette femme, ce sont celles que, confusément, on attendait de connaître.
Quand est-ce que ça vous est arrivé ?
Pour moi, cette impression-là, je l'ai ressentie dès que j'ai vu à Belle-Île une petite maison au volet vert dont une amie m'avait signalé qu'elle était libre à la location. Je n'étais jamais venu dans cette île, je savais seulement qu'elle méritait son nom, Belle-Île, et que face à l'océan, c'était la côte sauvage, falaises, rochers, et que face au continent, la côte offrait des plages plus paisibles. Alors, la maison en question était une petite maison de pêcheurs. Et pour y pénétrer, il fallait baisser la tête, parce que les Bretons, au moins à l'époque qu'il avait construite, ne devaient pas dépasser 1m50. Des herbes folles envahissaient le jardin attenant. Et au-delà, des prés, des moutons, et tout au loin, la mer. Dans la chambre du premier étage, une table à côté d'une fenêtre, et j'ai passé bien des heures à regarder à travers l'étroite fenêtre les prés et les moutons, à écrire, regarder la mer au loin. Pas mal d'heures aussi à jouer au tennis, joueur médiocre et d'autant plus acharné, aller de plage en plage, Belle-Île en compte pas loin d'une centaine, à parcourir l'île de part en part, à vélo sur les routes ou à pied le long des sentiers côtiers. Le hameau que nous avions élu ou qui nous avait élu ne comptait guère que 5 ou 6 maisons, et des liens d'amitié se sont très vite tissés avec leurs habitants. Avec ma femme et mes enfants, alors tout jeunes, nous avons passé dans cette maison, dans ce hameau, cette île, des vacances de rêve. Et pour moi, en tout cas, les plus heureuses de ma vie.
Pendant combien de temps êtes-vous allé à Belle-Île ?
Près d'une quinzaine d'années. Et j'ai pensé que ces vacances, je pensais après coup, qu'elles devaient me rappeler celles de mon enfance. Pourtant, rien à voir. En apparence, puisque ces vacances d'enfance, je les passais année après année dans la très spacieuse villa de ma grand-mère maternelle. Oui, mais dans les deux cas, c'était les grandes vacances, avec les mêmes activités, bains, tennis, bicyclette, c'était les mêmes rituels. Et dans les deux maisons, la très grande villa et la toute petite maison de pêcheur, des amis nous rendaient visite. Des amis qu'on ne voyait plus une fois de retour à Paris, mais qu'on était sûr de retrouver l'été suivant. Bon, alors, peu de temps après la mort de ma grand-mère et la guerre de 39-40, la villa fut vendue. La petite maison de Belle-Île fut vendue, elle aussi, en catimini. La propriétaire, nous ayant dissimulé sa décision, ce que je ne lui ai jamais pardonné, donc la petite maison m'échappa. Et j'en ai été si meurtri que je résolus de ne plus jamais mettre les pieds à Belle-Île. Quand une femme aimée vous laisse tomber, subitement, on ne va quand même pas lui courir après. Tu m'as plaqué ? N'en parlons plus.
Lucie Hakoun a réalisé ses entretiens avec JB Pontalis que vous pouvez retrouver sur notre site internet. Ainsi s'achève Le Grand Bain. Demain, ce sera la dernière émission de la saison. L'occasion de plonger au fond, mais alors tout au fond de la piscine. Un grand merci à toute la bande des baigneurs, Maïté Vasseur à la réalisation, nos techniciens du jour, Alexandre Chenet et Guillaume Roux, Sarah Masson qui m'aide à préparer les émissions, et avec les astuces d'Aurore Méfroy et de Félix Patiès. Encore une belle journée d'été en prévision sur France Inter.